atterrée, je suis en train d'écouter votre émission du vendredi 25. Je suis prostituée, et prostituée, je suis atterrée par tout ce que j'entends. Enfin, quand je pense que M. Sarkozy veut nous interdire de travailler, et que j'entends tous ces cinglés, parce que pour moi, c'est même pas de la dépravation, c'est les malades. C'est inimaginable. Et nous, on veut nous interdire de bouffer et de vivre sans rien demander à personne. Alors là, je suis hors de moi. Je ne sais pas si vous passerez le message, mais en tout cas, c'est parce que vraiment, ça me fait péter les plombs. Voilà, et merci de vos émissions, parce que quand même, on en apprend tous les jours. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Nadia de Paris. Je viens d'écouter votre émission, je ne sais pas où vous dégotez vos clients, entre guillemets. C'était vraiment très drôle et génial. Autant parfois les messages polémiques, etc., sur la base que j'y suis, je les trouve très ennuyeux parce que toujours un peu du même sens. Autant les grands reportages de Daniel Mermet et ce genre d'émissions qui ne mangent pas de pain, j'adore, quoi. Voilà, bravo et à bientôt. Au revoir.
Ça y est, fallait s'y attendre. Ça ne pouvait pas durer. Vous ne pouvez pas nous consacrer 5 heures d'émissions hebdomadaires à faire de la politique. Ce ne sont pourtant pas les sujets qui manquent, quand même. On a eu droit à toute une série d'émissions intéressantes et patatras. Vous nous servez vos petites histoires dont on n'a vraiment strictement rien à foutre. Quand je pense à tous les auditeurs qui vous ont soutenu pour la maintenance de votre émission à l'heure habituelle, ben vraiment, je trouve que c'est cher payé. Si c'est pour nous servir ce brouet infâme, c'était vraiment pas la peine. Vous vous moquez d'eux. Ça vous plaît de nous provoquer comme ça? Avec des bêtises et des choses vraiment même pas saines, ça aide les enfants à grandir, ça? Franchement, vous devriez faire un sondage. Eh oui, un de plus, pour savoir combien de vos auditeurs apprécient ce genre d'émission. Hein, je compte sur vous, comme dirait quelqu'un de bien connu. Merci de passer mon message. Salut.
Bon, salut l'équipe à Daniel Mermet, là. Je viens d'écouter l'émission, là, de ce vendredi, avec l'inénarrable Bruno, là, oh non, c'est génial, vraiment, vous êtes trop fort, c'est trop bon, je me suis bardé, j'ai passé un moment fabuleux, c'est extraordinaire, ah, vraiment, vous êtes champion, je vous remercie, c'est Maurice Faure d'Auvergne, de Bertignat, merci, je vous rappellerai, de toute façon, je vous suis de très très près, et je vous remercie encore mille fois, salut.
Alors, vous n'avez rien d'autre à foutre que de faire un reportage sur un forgeron sadomaso? Je ne vous comprends pas. C'est Carla d'Aix-en-Provence.
Bonjour Daniel Mermet. Je suis une habituée de l'émission et je l'apprécie bien souvent. Mais alors, l'émission sadomaso que j'ai déjà entendue il y a quelques mois, je me demande ce que vous trouvez pour rediffuser une chose pareille. Franchement, après on s'étonne que dans notre monde, dans notre société, il y ait vraiment des choses horribles qui se passent, des viols, des meurtres, des choses vraiment abominables. Mais ne pensez-vous pas que vous êtes un petit peu pour quelque chose quand vous passez des émissions comme ça qui n'apportent rien à personne? Il y a bien sûr des gens qui sont malades, on ne peut pas dire autrement, et tant pis pour eux ou tant mieux, j'en sais rien. En tous les cas, je ne vois vraiment pas ce que cela apporte à la société de partager de telles choses. Alors cette fois-ci, Daniel Mermet, c'est un zéro pointé que je vous mets. À bientôt.
Bonjour, la Vassie, j'y suis, c'est Pierrot de Caen, Calvados. Je téléphone jamais, j'écoute pas toujours votre émission parce que souvent je suis au boulot. Les trois quarts du temps, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, et si je téléphonais pour vous dire que l'émission avec Bruno, le ferronnier, m'a beaucoup fait rigoler. Elle était assez excellente, ça fait plaisir d'écouter des hommes libres et des femmes libres de temps en temps. Elle était vraiment marrante, cette émission. Donc bravo, merci, bon courage, à bientôt, ciao.
Voilà, je regarde un peu la télé, j'écoute beaucoup la radio, France Inter principalement, et je suis bien informée des faits et gestes de notre cher président. Je sais qu'il s'alimente bien, qu'il fait du sport, mais voilà, des formations professionnelles, évidemment je suis infirmière, personne ne s'intéresse à son transit. Fait-il bien caca? Je pense qu'il n'y aura pas besoin de chercher beaucoup pour trouver quelques volontaires pour s'intéresser à la chose. Je veux tout savoir, aspect, couleur et même odeur. Allez Daniel, fais quelque chose, je compte sur toi. C'était Chantal dans les Landes.
Eh ben voilà, on en apprend tous les jours, on en entend de toutes sortes sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Notre amie auditrice est géniale, infirmière, elle doit savoir ce que l'expression « comment allez-vous » veut dire. Hein. Comment ça va? Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Eh bien, allez, c'est aller à la selle. Et on s'intéresse aux selles de l'autre, qui est évidemment, c'est là que on peut lire et parfois même goûter autrefois, mais bien sûr, c'est les scènes des levées du roi, bien connues, pour savoir dans quel état de santé se trouve sa majesté, et chacun s'intéressait à l'autre de cette façon, puisque c'était une manière qu'on avait autrefois de savoir dans quel état de santé on se trouvait. Eh oui, comment allez-vous? Voilà, et puis vous avez vu, c'est quand même assez varié, quoi, les appréciations sur l'émission de vendredi, sur le Forgeron, Sado, Mazo, Bruno, ça a fait rigoler une partie des auditeurs, ça en a intéressé certains, et puis d'autres, je sais pas si ça va faire la même chose aujourd'hui, on verra, c'est possible, quoique, là c'est une balade quand on vous propose un retour dans les Comores, à la découverte, c'était une découverte, hein, des tortues, ces énormes tortues qui la nuit dans la pénombre pondent et retournent à la mer ensuite. C'est très très beau ces moments, et puis ça nous renvoie évidemment aux Comores et aussi à Mayotte où, comme vous le savez sans doute, ça chauffe en ce moment. C'est très intéressant de s'intéresser aux confettis de l'Empire, tant il est vrai que le diable se cache toujours dans les détails. Voilà, les tortues des Comores aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Un petit article trouvé dans Libération pour faire suite à un autre article qui était dans Libération également, où Martial, ingénieur, déclare à propos de Sarkozy, il a eu le bac avec mention « très bien ». Et un peu un de ses anciens professeurs à Sarkozy répond « Je sais pas qui lui a fait avaler une telle bourde. Il se trouve que j'étais membre du jury qui a fait passer les épreuves du bac B à notre futur président au lycée Molière en 73. Les notes d'écrit du candidat numéro 18917 étaient tellement médiocres, 7 sur 20 en français, 8 sur 20 en mathématiques, 9 en philo, qu'il a fallu passer l'oral pour être reçu sans mention. Sans doute était-il déjà doué pour faire croire à son interlocuteur qu'il se levait tôt ou qu'il était victime de mai 68. Bonne fin de journée à vous.
Eh bien voilà, c'est le Grenelle de l'environnement, ça me fait penser un petit peu à ce que font les psychiatres. Hein. Il y a une situation de crise, on dit la même chose que celui qui crie, qui menace, etc., qui est malade. On dit oui, si vous avez raison, je suis de votre avis. Et puis comme ça, on neutralise, on lui fait une bonne piqûre, et puis on l'enferme, quoi. Donc c'est ce qui va se passer pour toutes les causes environnementales, qui ne sont plus environnementales, qui sont, je dois le rappeler, sanitaires. Le réchauffement climatique, c'est une chose, les gaz à effet de serre, bien sûr, c'est grave, mais ça permet de rester dans le vague. Mais on est dans une crise sanitaire avec les problèmes des pesticides, les problèmes des virus émergents, des OGM. Voilà, donc c'est très facile de rester dans le vague et puis de ne rien faire, quoi. Voilà, merci.
Bonjour, auditeur modeste et géniaux du Poitou. Vendredi 8 juin, deuxième vendredi du mois. Et alors, on se retrouve au repère chez Léa, au petit Clasé, à 20h. Salut!
Le sondage IFOP détenu par Madame Parizeau, sorti dans le JDD détenu par Arnaud Lagardère de ce matin, stipulant que Nicolas Sarkozy fait l'unanimité chez les Français à 65 ou 66%, c'est ça. C'est bizarre, mais moi je suis pas content de lui, on m'a pas interrogé. Hein. Donc bon, je maintiens ce que je dis en disant que la berlusconisation des médias est en marche et que elle ne marche pas, elle court même, mais elle court très très vite. Ceci dit, j'ose quand même espérer que les Français ne soient pas si naïfs que ça. Voilà, salut, à bientôt.
Bonjour, une petite devinette pour les AMG. C'est un homme politique français. L'un des parents de sa femme est espagnol. Son fils est prénommé Louis. En proposant sa candidature pour les élections à la présidence de la République, il se présente comme un symbole d'ordre et de sécurité. Élu président de la République, avec un très bon score, il s'occupe immédiatement de la presse si dangereuse pour la museler, si possible. Vous avez trouvé ? Bravo ! Bien sûr, c'est Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, que Victor Hugo qualifiera de Napoléon le Petit. Ah, vous aviez pensé à quelqu'un d'autre ?
C'est Cécilia de Antibes, pas la même Cécilia, je précise. Je voulais vous dire que je suis un peu agacée parce que je suis professeure de collège en anglais et j'entends depuis le début de la journée que les élèves n'ont pas cours. Bon, alors je veux pas qu'on croie que les enseignants se reposent pendant que les autres font la soi-disant journée de solidarité. Parce que en ce qui me concerne, effectivement, je ne travaille pas aujourd'hui lundi de Pentecôte. Mais par contre, j'ai rattrapé à raison de 7 heures, c'est-à-dire une journée complète de travail à l'occasion de réunions qui ne servent à rien d'ailleurs. J'ai donc rattrapé mon lundi de Pentecôte. Donc j'aimerais bien que l'information soit diffusée. Voilà, et bon courage. Merci beaucoup pour vos émissions. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Massif y suit avec Guy Ventil, la nuit des tortues.
Flight number 2, arriving
Maore, Komori.
Ma le resto di fonte più a noi di che era
l'épicier.
Ah, c'est le petit épicier qui est en face de la mosquée. Ouais. Hein? Alors, dis-moi, c'est absolument extraordinaire, hein, cet endroit-là où on est, cette nuit.
Et là, exactement, on est à Itzamia, un village qui se trouve à l'est de l'île de Moélie. Et l'île de Moélie fait partie de l'archipel des Comores, qui est situé dans le canal de Mozambique, à mi-distance entre l'Afrique et le Madagascar.
Là, on voit le géographe là, qui parle. Hein.
Ouais.
Et c'est le village où tu es né?
Voilà, c'est mon village natal. Ouais, Je suis natif d'ici.
Ouais.
Et Itzamia est reconnu pour la pointe des tortues marines.
Pas la pointe des tortues, on va aller voir la pointe des tortues. Mais en attendant, c'est formidable. Hein, cette nuit, ici dans le village, il n'y a pas d'électricité.
Non.
Voilà, là, il est.
Les gens en mode, disons, traditionnel.
Ouais,
les
lampes
à pétrole, comme
beaucoup
tu l'as constaté.
Beaucoup de cases en terre.
Oui, en terre battue, oui. Et même en feuilles de cocotier, il y en a.
Feuilles de cocotier, terre battue et quelques-unes en dur.
Quelques-unes en dur.
Alors,
l'âge de la mosquée.
Il y a des frères.
Une belle filante.
Ah ouais.
Parce qu'il faut dire, en plus, comme il n'y a pas de lumière, comme tout le village est dans le noir, à part quelques petites lampes à pétrole, la voûte étoilée, l'hémisphère sud en plus.
J'ai jamais vu une voûte étoilée pareille.
C'est ça l'éclairage municipal en fait.
C'est les étoiles.
Thank you.
nuit magique, aujourd'hui nuit magnétique. Vous avez compris, Anfani vous l'a dit, Anfani il est géographe et on est dans son village à Itzamia, au sud de Moéli, l'une des îles des Comores. Et alors c'est vrai que c'est vert, c'est vierge et c'est très très beau, c'est très très beau Moéli. C'est très très pauvre et très très beau à la fois. Et 290 km², l'île, 35 000 habitants. Et on est vraiment dans la serre du Jardin des Plantes. Vous voyez la serre du Jardin des Plantes, ben vous agrandissez ça à la taille d'une île et c'est Moéli. Alors, vous avez vu, on a parlé beaucoup de, parmi les trois îles des Comores, de l'Union des Comores, on a parlé de Grande Comore, on a parlé d'Anjouan, on a très très peu parlé de Moéli, parce que Moéli, cette île-là fait parler beaucoup moins d'elle. Les habitants de Moéli sont moins enclins à partir vers Mayotte. Beaucoup, évidemment, se sont exilés, mais beaucoup moins que dans les Grandes Comores. Non, ils sont chez eux, à Moéli, et encore une fois, je le répète, c'est très très pauvre, mais on vit là, c'est là qu'on vit. On est chez soi. Et chez soi, eh bien, on essaye de faire du développement communautaire, c'est-à-dire que ces petits villages, ces petits groupes d'habitants essayent de développer l'agriculture, qui telle ou telle activité, ou bien, comme là, le tourisme. Alors c'est un tout petit tourisme, écotourisme, qui se développe, vous allez voir dans quelle proportion, à Itzamia, autour des tortues. Parce que voilà, les tortues viennent pondre ici, sur ces plages. Quand on se lève le matin vers 6h, 6h30, c'est magnifique, on va se baigner. Et sur la plage, on voit des traces, on dit, ah tiens, ils doivent avoir des engins avec des grosses roues pour emmener les pirogues jusqu'à la mer. Eh bien non, pas du tout. Ces traces sur la grève, sur le sable, c'est les traces des tortues, des pattes des tortues qui ont laissé ces traces au cours de la nuit. Car au cours de la nuit, par dizaines, parfois plus encore, les tortues marines viennent sur ces plages et dans les broussailles au haut de la plage, eh bien elles viennent pondre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Aussi que na tambu nyengisa moyoni.
Quand tu dis que c'est touristique, il y a combien de touristes qui viennent ici chaque année?
Bon, ça dépend des circonstances. Hein. Ce qui est sûr, on n'est pas en dessous d'une centaine par an.
Une centaine de touristes par an? Ouais. Ça reste encore raisonnable.
Vous avez même constaté que les gîtes que l'association des villages a mis en place, il y a juste deux chambres.
Ouais,
donc
ça va encore.
On a encore un travail à faire.
Mais vous n'avez pas peur de perdre votre âme dans cette histoire?
Non, pas du tout, étant donné que c'est tout le monde qui s'engage, c'est tout le village, c'est tous les villageois, hommes, femmes, jeunes. Donc c'est un travail d'une équipe. Et là, depuis 90, progressivement, plus ou moins, maintenant il y a eu un engouement au niveau même insulaire. Chaque village, il y a une association communautaire qui œuvre justement pour le développement communautaire.
Mmh. Le développement communautaire, là ici, c'est un peu de tourisme, mais c'est d'autres formes de développement ailleurs.
Hein. Oui, chaque
village s'essaye à un développement communautaire. C'est dans quel domaine, par exemple?
Ça dépend de ses ressources naturelles, mmh, de ce qu'il protège. L'élevage,
le maraîchage,
la culture d'oignons,
les oignons,
tomates, d'autres qui cultivent les bananes. Mm-hmm. Donc c'est très divers.
Mais comment t'expliques quand même que des trois îles des Comores, ici à Moéli, vous êtes ceux qui ont le moins envie de partir vers Mayotte?
Bon, cela s'explique par plusieurs raisons, étant donné que le moellier de nature, lui, n'est pas voyageur. Ça, c'est un. Mais là, s'ajoute que Moélie est le grenier des trois îles, où il fait beau vivre, il y a encore de la place, il est peu habité, il a la verdure, il y a encore des terrains pour exploiter, l'élevage marche bien, l'agriculture.
Donc, la terre est bonne.
Et aussi, elle est disponible.
C'est magnifique, là, on est en train de marcher dans la, presque dans la totale obscurité. Pas tout à fait totale, quand même, hein. C'est plein d'ombre, quelques lumières. Là, une dame qui avant. Ah ben, c'est chez toi, là.
Ouais.
Enfin, ça va être chez toi, parce que c'est ta future femme.
Oui, oui.
Qu'on a vu passer avec sa petite lampe.
Elle est femme qui prépare le...
Ah oui, elle prépare à dîner.
Elle prépare à dîner.
Alors ça c'est les piments. On est en train d'écraser les piments sur une pierre avec une autre pierre ronde. À toute vitesse, elle écrase les piments. Elle fait une pâte. Ça sent très très bon. Là, il y a une autre dame qui est en train d'éplucher des papayes, de préparer des papayes. Voilà, si on met un peu de sel pour les piments. Voilà. Et puis après, là-bas, en contrebas, il y a, dans une friteuse, avec de l'huile de palme, on fait des beignets de bananes vertes. Et puis après, il y a un autre feu, là-bas, avec des ailes de poulet, je crois, de la viande. Et tout ça, c'est délicieux, les odeurs... de tous les côtés. Et alors c'est un vrai bonheur, c'est des moments heureux, quoi, tout simplement.
J'ai oublié le chargeur à ma main.
Ça sent. Une petite lampe à pétrole. Elles amènent des plats. Elles montent un peu la lampe.
C'est des bananes frites.
Oui.
Tu as fait des courses au marché avant de venir, quand même.
Ah ouais,
les
mains
vides.
Ouais.
Là, elle t'a vu, c'est la cuisine, c'est dans la cour. Quelques petites branches de bois posées à même le sol, avec la grosse marmite dessus.
Voilà. Voilà les verres. Voilà de l'eau.
Le menu de ce soir, c'est thon, le petit bout de thon qu'on a trouvé, et puis les ailes de poulet.
Parfait.
Et les ailes de poulet, quand même, dans les Comores, c'est le symbole de raffinement. Quoi. Quand on dit que les Anjouanais ils vont à Mayotte pour manger des ailes de poulet.
C'est le foie gras, quoi.
Voilà, c'est le
caviar. C'est le caviar du coin. C'est un crabe. Extraordinaire la vitesse à laquelle les crabes comme ça se déplacent. Pour l'un autre. Ah, c'est fou. Ah, il y a des traces là. Ça c'est une tortue qui vient de passer.
Ouais, c'est une tortue qui vient de monter.
Elle vient de monter, donc elle est là. Elle est là.
Mm-hmm.
On va voir.
On va suivre les empreintes. Un crabe qui saute. Ah, c'est marrant, sur le sable. Ça fait des traces. Comme un engin, comme un truc à deux roues qui serait passé. Là, on est en train de remonter les traces.
Éteins la lampe.
Il faut éteindre.
Ouais, parce que si on l'éclaire, avant qu'elle commence sa pente, elle fait demi-tour. Donc c'est une stress, la lumière.
La lumière la stresse.
Ouais. Et donc on la laisse, on continue, on va voir d'autres.
D'accord,
on la verra au retour.
Ouais, d'accord. On la verra au retour.
C'est énorme.
Les doigts, elles sont énormes, ces tortues. Hein?
Ouais, mais là, c'est. Elle n'est pas très grande, il y a plus grande que celle-là.
Ah ouais?
Ouais.
Qu'est-ce que tu vois?
J'avais vu comme une trace de bébés tortues.
De bébés?
Tu vois, les marée haute plutôt, c'est là où on voit les tortues. Donc aussi, les bébés tortues profitent de la marée haute pour diminuer le trajet, la trajectoire, parce que. Il y a beaucoup de prédateurs qui les attendent.
C'est quoi les prédateurs, par exemple?
Par exemple, le crabe, chat sauvage, héron, frégate, corbeau et tout. Bon, en fait, on prend un raccourci pour aller à la plage des tortues.
Alors, on prend ce petit chemin. Alors, c'est pas rien les tortues, hein. À Itzamia, c'est pas rien la tortue. Vous allez voir l'importance que prend la tortue pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les habitants de ce petit village de Moëli. Mais évidemment que depuis toujours et un peu partout, la tortue est un animal mythique, bien évidemment. Et ici, dans les Comores, il y a eu un temps, avant la venue des hommes, avant que les hommes n'arrivent sur cette planète et sur cet archipel et sur ces îles et sur cette île en particulier, donc avant, au temps où les poissons parlaient, et ils s'entendaient très bien les poissons, tout se passait bien, un jour quand même l'un des poissons s'est inquiété. Il a réuni les autres poissons, ses collègues poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et il leur a dit « Mais qu'est-ce qu'on ferait si, un jour, il y avait une famine ?» Il faut bien dire qu'une grande partie des poissons qui étaient là n'avaient jamais entendu un mot pareil. Certains avaient entendu dire que ça pouvait exister. Ils ont expliqué aux autres que c'était que la famine, et tous se sont inquiétés. « Ah oui, qu'est-ce qu'on ferait si il y avait une famine ?» Alors, ils ont réfléchi, puis ils ont dit, on se bouffera entre nous. Voilà, on se bouffera entre nous, et ce serait le plus gros et le plus fort qui l'emporterait. Voilà. Et là-dessus, ils sont retournés dans la mer, nager. Parce que c'était une époque où les poissons, de temps en temps, se sortaient de l'eau, se mettaient au soleil et parlaient. Donc, après cette conversation, ils ont rejoint les flots tièdes de la mer autour de Moëli, et quand même ils étaient assez alourdis par cette perspective qu'un jour, si la famine venait à sévir, il faudrait se bouffer entre soi, les gros mangeraient les petits, les très très gros mangeraient les gros, et les plus méchants mangeraient les très très gros. C'était une perspective assez fâcheuse. Et c'était une époque, donc, où, je vous ai dit, avant que les hommes n'apparaissent sur la terre, où les tortues dansaient. Les tortues dansaient, oui, les tortues étaient extraordinaires. C'était des animaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez voir aujourd'hui ou même imaginer. C'était, voyez, des danseuses, imaginez des danseuses d'une habileté, d'une grâce absolue, qui la nuit était lumineuse. Vous imaginez quelque chose comme ça, voilà ce qu'étaient les tortues. Et elles étaient évidemment admirées, convoitées, et tout le monde admirait les tortues. Il y avait une inquiétude dans le monde des poissons avec cette perspective, depuis que quelqu'un avait eu cette idée de demander ce qu'on ferait si la famine venait à sévir. Et on a éprouvé le besoin de se réunir à nouveau, on s'est mis sur les pierres, vous savez ces pierres volcaniques, comme il y en a beaucoup dans ces îles, on s'est mis là un peu au soleil. Et quelqu'un, je ne peux vous dire exactement lequel de ces poissons, a dit « je pense que ce serait mieux ». Au cas où la famine viendrait à sévir, le mieux ce serait qu'on bouffe les tortues. Ah, formidable! Formidable, ils ont senti un apaisement parmi eux, parce qu'on ne se mangerait plus entre soi, on mangerait quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Une autre... voilà.
Et il y avait des tortues qui étaient là, deux ou trois tortues qui étaient justement en train de danser et de... avec une grâce infinie sur cette plage ce matin-là. Et les tortues ont entendu ça. Ah, vous avez entendu? Et elles sont devenues... La frayeur s'est emparée d'elles. Et elles ont dit... Mais c'est terrible ce que vous dites là. Et les poissons disent, bah oui, mais on regrette, c'est nous qui avons pris la décision. Vous êtes un peu nos boucs émissaires, même si les boucs émissaires n'étaient pas encore inventés. Mais voilà, c'est des gens très en avance, vous savez, sur ces îles. Et les tortues étaient paniquées. C'était un très grand désarroi parmi les tortues. Et l'une d'elles a dit, en s'adressant aux poissons, c'est comme si vous disiez que Dieu n'était pas là. Et à ce moment-là, vous savez quoi ? Dieu qui justement était là, contrairement à ce qu'avait dit cette tortue, Dieu qui était là a envoyé des carapaces pour protéger les tortues. Et depuis ce temps-là, les tortues ont des carapaces. Les poissons n'ont jamais réussi à manger les tortues. Mais vous voyez, quand on est pris comme bouc émissaire par un autre groupe, eh bien, on devient une tortue. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce et d'agilité et de beauté pour le reste du monde.
Crabe poilu.
Comment tu l'appelles ?
Crabe poilu.
Crabe poilu ?
Oui.
Ça se mange ?
Ouais, ça se mange. Mais ici, on n'a pas l'habitude de manger les crabes de commandes.
Je crois qu'on a entendu voler là.
Un chauve-souris.
Ah, il y a des chauves-souris énormes ici. Il y a
des battements d'ailes là. Ouais.
Des roussettes. Alors dis-moi, où est-ce qu'on arrive là ?
Je dis, on est arrivé à la plage des tortues.
Uh-huh.
Tous les trous que vous voyez là, ces grands trous, ce sont des nids des tortues.
Ah d'accord.
Voilà. Alors, il n'y a jamais eu un tracteur ici, ni on n'extrait pas le sable. Mais tous ces trous que vous voyez là, ce sont des tortues qui ont déjà pondu là. D'abord, s'il vous plaît, vous éteignez votre lampe, oui. Bon, donc aux Comores, il y a deux espèces de tortues qu'on peut voir ici. C'est la tortue verte et la tortue imbriquée. La tortue verte, c'est la plus répandue, mais la tortue imbriquée, on le voit rarement. L'exemple en est qu'on a bagué 5200 tortues.
Oui.
Et donc, 7 simplement sont imbriquées. Et donc, pourquoi nous, on protège la tortue ? Avant, c'était l'idée de protester contre des pilleurs qui venaient piller des ressources qui appartiennent à notre village. Mais plus le temps évolue, on a deux autres idées nouvelles, disant que c'est une espèce en voie de disparition, donc on doit protéger. On aimerait que tout le monde ait la chance de voir une tortue, qu'ils soient nous maintenant et aussi ceux qui viendront après nous. Donc, ça fait déjà 23 ans qu'on protège cette tortue. Et donc, les résultats sont là, ils sont concrets. Avec tous les progrès qu'on a fait, de sensibiliser, d'impliquer tout le monde dans la cause. Et donc, ça fait que maintenant, on est à peu près à 90% de réussite dans le domaine. Pour faire un peu l'historique de la tortue, maintenant on est à 20% de la population mondiale de tortues, c'est-à-dire le 80% est déjà disparu. Pourquoi ? Parce que les grands sites du monde sont menacés. Donc il reste peu d'endroits qu'on trouve la tortue verte dans le monde à l'heure actuelle. L'exemple en est que toutes les îles des Comores avaient des tortues, mais maintenant il ne reste que Mouélie et Mayotte. La Grande Comore, on ne voit pas de tortues en juin non plus. Et à Mouélie, il y a 49 sites de ponte de tortues.
Ah, ici, il y a 49 sites de ponte.
Ouais. Mais Itsamia dispose 5 sites, c'est-à-dire 5 plages. Et donc, la particularité qu'il y a à Itsamia avec les autres 42 sites qui restent, c'est qu'à Itsamia, tu verras en moyenne 10 tortues montées par nuit durant toute l'année.
Ouais.
Mais les mois les plus fréquentés, avril, mai, juin, juillet, août, tu peux voir même au-delà de 100.
Ah oui?
Parce que le pic de cette année 2005 était en une nuit 152 tortues.
Et elle pond combien de?
Bon, en moyenne, la tortue pond 150 œufs par ponte.
Par donc, ponte? Oui, ils sont gros comment les œufs?
Comme la balle de ping-pong.
Ah d'accord, voilà. Ouais. Ouais. Alors elle arrive là et elle pond 150 balles de ping-pong.
Ouais. Et donc, elle pond 4 fois par saison de ponte. Et quand elle a pondu les 4 fois, elle prend un repos reproductif de 3 ans. Et c'est la 4e année qu'elle reviendra pondre.
Elle reviendra sur la même plage?
En fait, la première ponte de la tortue, elle le fait là où elle est née.
Ah oui?
La tortue commence à pondre à 40 ans. Ah, avant 40 ans, elle ne pond pas.
Et donc, ça vit combien de temps une tortue?
Un siècle et demi en moyenne.
150 ans?
Oui.
Mais ici, sur cette plage-là, il n'y a aucun touriste, il n'y a aucun...
En fait, la plage des Tortues, c'est un site protégé. Tu peux venir dans la journée, tu peux faire tout ce que tu veux, mais à partir de 18h, tu ne peux pas être ici seul. C'est un problème de sécurité parce que les braconniers qui débarquent ici, on ne sait pas s'ils peuvent être violents.
Agressifs.
Tu ne sais pas où replier en tant qu'étranger.
Mais les braconniers, ils veulent quoi? Ils cherchent quoi, les braconniers?
La viande et les œufs.
Les œufs de tortue, on les mange comment?
On fait de gâteaux, des omelettes.
Ah, ouais.
Ouais. Ici, à Itsamia, je te rassure que personne ne fait ça. Bien. Mais ailleurs, je te garantis.
Portées par la lampe de poche, là c'est superbe si on a la nuit. Là voilà des traces à nouveau.
Là elle est en train de creuser le puits de ponte.
Ouais.
Donc là on la laisse parce que si.
Mais c'est énorme, dis donc. Hein.
Si on...
Elle mesure combien tes tortues?
1 mètre, la plus grande mesure 1,20 m de carapace.
De diamètre, enfin oui.
Non, de carapace.
Ah oui, c'est ça, oui, là. D'accord, 1,20 m, c'est quand même pas mal. Hein.
Ça pèse combien?
350 kilos.
Ça, c'était une tortue verte, ça?
Ouais.
Lui, il y a un petit zigzag, là.
Ouais.
Alors, voilà, on suit à nouveau notre trace.
C'est loin de la mer, quand même.
Pour nous, la tortue, ce n'est pas un animal.
Ah!
Notre idéologie de l'association, nous, on personnifie la tortue. C'est-à-dire, s'il y a une tortue qui est morte, ça veut dire qu'il y a un grand ami qui est mort.
Oh là!
Oui, parce que pour nous, maintenant, la tortue, c'est... Physiquement, c'est un animal.
Oui.
Mais moralement, ce n'est pas un animal. Je ne peux pas dire que c'est une personne, mais en fait, c'est un ami. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on œuvre pour qu'elle soit ici. Tu vois ce que je veux dire?
Dans les mythologies des Indiens du Québec, le monde repose sur le dos d'une tortue.
Et en Inde aussi?
Oui, il y a beaucoup d'histoires de tortues.
La tortue, dans la mythologie indienne, sur l'océan de lait, barate le lait et en fait du beurre.
Et alors, nous, on a vu au Bénin un prêtre vaudou qui marchait sur l'eau. Alors, on lui dit, mais comment tu fais pour marcher sur l'eau? Alors, il a dit, ben voilà, parce que j'ai des pouvoirs, etc. Et puis on lui a reposé la question quand même, parce que nous on est des journalistes très malins, et on peut pas nous raconter n'importe quoi, tu vois. Et là il a fini par avouer qu'en rigolant, que c'est pas... parce qu'il marchait sur une tortue. Mmh. Il se posait sur une tortue, et la tortue elle nage, il donne l'impression de marcher sur l'eau. Il y a beaucoup d'histoires de tortues. Mais les tortues, elles ont une grande, grande vertu. Je ne sais pas les tiennes, là, ici. Mais chez nous, les petites tortues qui font 10-15 cm. Mais j'en avais quand j'étais enfant, parce que moi, j'étais asthmatique. Alors, on disait que quand tu as une tortue, tu n'as plus d'asthme. Alors, si bien qu'il y en avait dans la maison, j'en avais dans mon lit. J'avais des petites tortues dans mon lit. Et effectivement, ça calmait le...
Il y a des gens même qui qualifient la tortue comme le dépité. Comme l'élu du village, tu vois, parce que c'est à cause des fréquentations des touristes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à venir avec leur voiture, qui gueulent, et puis Itzamia a eu la route goudronnée. Il n'y avait pas le téléphone, maintenant il y a le téléphone, et là on a l'internet à Itzamia, donc on dit que c'est...
Tout ça c'est grâce à la tortue.
Oui, c'est la tortue, donc c'est pas tout simplement un animal, mais aussi c'est... C'est un élu.
On y va ?
C'est vérité.
Dis donc, c'est vraiment une île parfumée, hein, parce qu'on sent des parfums de temps en temps.
Ouais, en fait, ce sont des odeurs naturelles.
Ah ouais, c'est... Oui, mais c'est ces odeurs, c'est des parfums, quoi. Ouais, c'est joli, tu vois.
Voilà, quand la tortue est en train de pondre, tu peux l'approcher, tu peux la toucher, tu peux photographier, tu peux tout faire.
Elle pond là ?
Ouais,
elle pond. Tu peux allumer l'autre lumière ?
Ouais.
Ah ouais, voilà.
Approchez-vous. Donc voilà.
Voilà, oh, c'est
magnifique. Hein.
Attention là, le sable.
Il ne fait pas tomber le sable. Un petit trou là, tu vois là ? Il dans l'axe là, ouais. Espèce de truc luisant blanc.
Ouais, ce sont les œufs.
Tu lui soulèves quoi la patte ?
Tu vois les œufs ?
Ah oui, oui.
Puis il y a un petit nouveau qui descend.
Et donc de là où elle a pondu jusque là où elle va partir, elle va faire au moins 1,50 m. Tu entends comment elle souffle ? Bien là où elle a pondu.
Elle a fini sa pente. Hein.
Ouais.
Vu ça avec ses deux pattes arrière, comme elle pousse.
Les tortues n'ont aucun lien maternel. C'est-à-dire c'est le travail de la mère, c'est tout.
Voilà, elle se démène pendant toute une nuit, mais c'est tout ce qu'elle fera jamais pour ses bébés.
Et ils ne se verront jamais. Et personne ne saura c'est ma mère ou bien c'est ma soeur. Ah, c'est un monde... magnifique ou bien.
Ou bien.
Il y a une tortue, quand elle a pondu, elle a fini de pondre les quatre fois par saison de ponte, elle va migrer. Et donc si elle migre, elle est suivie par des mâles. Mais ce sont des mâles qui ont suivi une femme qui n'est pas à consommer. Quoi. Donc aussitôt qu'ils rencontrent une autre femelle qui est consommable, ils s'en vont. Et la plupart du temps, ils restent là où ils ont croisé la nouvelle préférée. Quoi. Si par exemple, elle a migré jusqu'en Afrique du Sud, ça veut dire qu'elle a été accompagnée avec des mâles jusqu'en Afrique du Sud, mais revenir ici, elle reviendra avec des mâles d'Afrique du Sud.
Mmh. Sans visa, sans papier.
Ouais, en fait, c'est une reine. C'est la délégation officielle.
On entend respirer, c'est impressionnant. Hein.
Voilà, sur la plage des tortues à Itzamia, à Molly, dans les Comores. Et vous voyez, hein, comment naissent les mythes et les mythologies. On a évoqué des mythologies anciennes, ou dont la tortue est la figure. Mais voilà, dans ce village, la tortue est vénérée parce qu'elle a des pouvoirs. Et les pouvoirs de la tortue, c'est que, eh ben, elle fait venir les touristes, et qui dit faire venir les touristes dit que la route est bitumée. Et donc, ben là, voilà, c'est les pouvoirs de la tortue. Et puis qu'on reçoit Internet dans ce village. Et voilà, c'est à cause de la tortue qui est vénérée, qui est une personne, pas tout à fait une personne, mais un peu une divinité, qui a des pouvoirs et qui doit être respectée, qui doit être vénérée. Et voilà comment s'installent des mythes. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est comme ça. Sauf que là, c'est aujourd'hui. On voit la naissance d'un mythe à l'usage de nos jours et à notre usage à nous qui sommes dans cette nuit délicieuse et parfumée, la nuit des tortues.
Un peu là par rapport à tout à l'heure.
Ouais, en fait elle avance doucement et elle bouge, elle recouvre en avançant un peu. Et voilà, elle commence de chercher de loin le sang.
Ouais, ouais, elle va chercher sur les côtés, elle rabat derrière elle avec ses pattes arrière. Et là, notre présence,
elle s'en fout si elle a déjà pondu. Elle a un objectif, c'est de bien couvrir ses œufs. Si tu es là, si tu n'es pas là, si tu allumes, si tu pètes, si tu... c'est pas son problème. Mais avant ça, si elle ressent que tu es là, elle fait demi-tour parce que là, tu veux qu'elle dépose ses œufs et puis tu les voles. Celui-là, elle est vieille. Hein. Pas moins de 70 ans, hein, j'en suis sûr.
Ça veut dire que cette tortue-là, elle est née dans les années 30.
Ouais.
Elle a connu le Front Populaire. Le pacte germano-soviétique.
Ben, elle était française surtout.
C'est vrai.
C'est une tortue française. Et c'est à nous cette tortue. C'est une tortue d'avant l'indépendance, ça, les gars. Il faut peut-être nous la rendre, cette tortue.
Ah,
eh ben oui. C'est pour ça qu'elle est encore en bonne santé, parce que c'est une tortue française.
Tu crois que si... elle était comorée, elle aurait dû être malade.
Bah, écoute, quelle est l'espérance de vie?
Ouais, tu as raison.
Ah, oh, voilà.
Alors, elle sort ses pattes de devant. Ouais. Et là, on se lève parce que...
Ah, on voit sa tête, regarde, maintenant.
Ah, ouais, ça y est.
Maintenant, elle va commencer à utiliser les grands calibres.
Les grands calibres, elle est pelleteuse.
Donc, elle peut relancer jusqu'à 6 mètres le sang.
Ah oui,
c'est pas maintenant, mais...
Ouf. Attention. Ah, c'est étonnant, les pattes de devant qui se mettent à jeter du sable. Ouf! Une puissance, dis donc, ouais. C'est extraordinaire.
Voilà, il enlève la branche qu'elle avait cassée au passé, donc il la gêne un peu.
Je vous ai bien aidé, madame.
Hein?
Fallait dire merci. Tu vois ce qui se passe, hein? Elle envoie avec les pattes avant, mais elle arrange avec les pattes arrière. Pour qu'elle rebouche, elle recouvre vraiment là où il y a les yeux. Ok, Daniel, tu
Allez.
As sommeil
hein?
Tu as sommeil?
Ouais. Mmh. Ok.
C'est déjà pour un moment, elle, encore.
D'abord, il y a des nez, lui qui est comme un melon. Il a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit et tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses dix doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, monsieur. On prie. Et puis y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une peigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto. Qu'aimerait bien avoir l'air, mais qu'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas, monsieur. Et puis y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, y'a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Elle est toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille, et qu'on écoute même pas ce que ses pauvres mères racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on cause pas, monsieur. On cause pas, monsieur. On compte.
Je vais éviter un peu de travail à Charlotte. Vous allez être nombreux à lui demander quel est l'interprète. C'est Nawal. Mais elle vous le dira si vous allez sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ou bien sur là-bas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter aussi cette émission et beaucoup d'autres. C'était une balade. Vous avez compris, avec Guy Vantil aux Comores. D'autre part, nous vous signalons qu'une expo de photos Esclaves au paradis de Céline Anaïa qui raconte les péripéties en France des Haïtiens et du trafic d'êtres humains qui passent la frontière pour aller dans la canne à sucre du côté de Saint-Domingue, de la République dominicaine. À la technique aujourd'hui, Mathias Saléon et Serge Viguier, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission. Et Christophe Imbert attend vos observations, vos mots doux ou vos mots durs dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.